Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en 1974 et publiait alors un livre-programme intitulé « L'utopie ou la mort ». Ingénieur agronome, chercheur et enseignant à l'Institut national agronomique de Paris, René Dumont développa dans les années 70 une position politique alors fort peu en vogue, développant l'idée qu'il faut se libérer du carcan de l'économie du profit pour sauvegarder la planète, lutter contre le gaspillage et la destruction de la couche d'ozone, réduire la consommation d'énergie et l'insolent pillage du tiers-monde sur lequel ces fléaux se fondent. Idée aujourd'hui davantage répandue, bien sûr, qu'elle ne l'était alors, comme par exemple au moment où il accordait à Jacques Pogam l'entretien qui va suivre pour l'émission Parti pris, diffusée pour la première fois le 1er juin 1977, il y a plus de 40 ans.
Bonjour, un invité aujourd'hui à qui les portes de Parti pris sont toujours ouvertes, René Dumont, le thème écologie et socialisme. René Dumont, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est d'abord parce que nous sommes en plein dialogue Nord-Sud et que vous avez été l'un des premiers à essayer de faire comprendre aux gens l'importance de ces problèmes. Et puis parce que vous venez de publier chez Robert Laffont un livre qui est une remise en cause. Vous avez 73 ans, vous faites encore des remises en cause. Et qui est en même temps un cri d'angoisse, une fois de plus. Il s'intitule « Seule une écologie socialiste ». Et à lire ce livre, on s'aperçoit déjà que, finalement, l'écologie, pour vous, c'est quand même une découverte assez récente.
Oui, 1970. Évidemment, j'avais des notions d'écologie, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, quand, dans mes enseignements à l'Institut agronomique, j'enseignais de respecter la fumée organique, la teneur en humus du sol, de respecter les forêts tropicales qui se dégradaient trop vite. Mais je n'avais pas vu la menace d'ensemble qui pesait sur notre civilisation. J'avais bien vu la menace sur l'agriculture. J'avais bien vu la famine dans le tiers-monde, puisqu'en 66, j'écrivais « Nous allons à la famine ». Mais je n'avais pas vu que la menace était aussi effroyable, qu'elle menaçait la disparition de nos ressources principales d'énergie, qu'elle menaçait nos climats, qu'elle menaçait nos rivières, notre air pur, finalement qu'elle menaçait la planète qui risque de disparaître, on nous dit le Club de Rome, au cours du siècle prochain, l'humanité, pas la planète, qui risque de disparaître. On aura une société d'insectes, alors peut-être à la surface du globe.
Il y a cette prise de conscience, mais en même temps, il y a aussi certaines déceptions. Il y a d'abord toute votre lutte contre la faim.
Oui, naturellement. Première déception, la recherche d'un socialisme, d'abord. La recherche d'un socialisme humain. Alors, les espoirs successifs de 1917, puisque j'étais tout jeune en 1917, la révolution d'octobre, puis les espoirs qu'ont fait naître successivement les révolutions socialistes de Cuba en 1959, de Chine auparavant, en 1949. Et j'ai été voir Cuba, j'ai été voir la Chine, j'ai espéré un socialisme humaniste, ici ou là. Et dans tous les cas, j'étais déçu.
Il y a eu la Tchécoslovaquie et le Chili aussi.
Oui, alors là, j'ai eu plus d'espoir. Mais ces espoirs ont été déçus d'une autre façon. Non pas que ces sociétés aient échoué, mais qu'elles ont été, les expériences ont été brutalement supprimées. Peut-être parce qu'elles portaient trop d'espoir et qu'elles risquaient de faire des dégâts trop graves dans les sociétés dominantes que sont en Tchécoslovaquie l'Union soviétique, que sont au Chili les États-Unis d'Amérique dans leur domination sur l'Amérique du Sud. Par conséquent, là, c'était extrêmement dangereux.
Mais vous pensez que vous semblez dire que les régimes socialistes n'ont pas de système d'autorégulation qui leur permettrait de dominer tous ces problèmes.
Oui, ils n'ont pas de système de critique, ils n'autorisent pas la critique. Ils se proclament parfaits dès l'origine. Dès qu'on supprime le capitalisme, Jean-Paul Sartre d'ailleurs avait adopté cette thèse quand il est venu à Cuba en janvier 60, dès qu'on a renversé le capitalisme, en principe, on établit une société parfaite. Et alors, comment on établit une société qui se dit parfaite? cette société n'autorise pas la critique. Comme elle n'autorise pas la critique, elle n'autorise pas la mise à jour des erreurs importantes qu'elle commet. Or, elle commet des erreurs politiques, des erreurs économiques, des erreurs sociales. Si ces erreurs ne peuvent pas être publiées, ces erreurs ne peuvent pas être corrigées. Et on prend du retard dans la correction des erreurs. Et par conséquent, on prend du retard, finalement, sur le régime capitaliste.
Vous avez l'impression que le mouvement écologique est venu d'autres horizons que celui du socialisme classique ?
Certainement, il est venu d'une prise de conscience des dégâts que faisait sur la nature l'ensemble des agressions qui ont pris une allure de plus en plus importante à mesure que la révolution industrielle a pris elle-même plus grande allure. C'est à partir de 1950 que la révolution industrielle occidentale s'emballe et que donc les dégâts sur la nature s'emballent. Les premiers qui nous ont avertis, ce furent les pêcheurs à la ligne. Quand ils ont vu dans leur rivière les poissons le ventre en l'air, ils ont dit « il y a quelque chose qui ne va pas », c'est bien évident. Et les associations de pêche à la ligne ont protesté contre la pollution des rivières. On est remonté à la cause de ces pollutions. Puis on s'est aperçu que les pollutions atteignaient non seulement les rivières, mais l'atmosphère. On s'est aperçu que les climats risquaient d'être altérés. On s'est aperçu, enfin, et surtout, que l'épuisement des ressources rares de la planète était extrêmement grave. On va manquer d'eau, on va manquer de ressources d'énergie, on va manquer de minerais, on va manquer de phosphate avant un siècle si les vidanges continuent à aller à la mer au lieu d'être réincorporés au sol comme le font les Chinois. Il y a toutes sortes de menaces qui sont le fréon qui est en train de démolir l'ozone. Les avions supersoniques qui traversent la couche d'ozone et qui, s'ils se multipliaient, si tout le monde avait son petit Concorde, toutes les nations avaient leur Concorde, s'il y avait plus de 50 Concorde traversant la couche d'ozone... L'Organisation météorologique mondiale nous dit que la couche d'ozone serait altérée. Donc on est en train de jouer avec la planète comme des enfants lâchés dans une maison en papier avec une boîte d'allumettes. Avec la différence que le feu prend tout de suite avec la boîte d'allumettes, tandis que nous, le feu sur la planète, la destruction de la planète prendra un siècle, elle s'avère lente. Alors on ne s'en aperçoit pas et on refuse de regarder la menace.
Alors regardons la menace et ce que l'on peut proposer. L'écologie socialiste que vous prenez n'a pas grand-chose à voir avec ce que prônent les partis socialistes occidentaux et en particulier le Parti socialiste français.
Sûrement pas, puisque nous prenons une mesure qui va d'abord réduire le pillage du tiers-monde. Or, notre niveau de vie est en grande partie résultat du pillage du tiers-monde. Nous allons exploiter des ressources de pétrole, de bauxite pour l'aluminium, des minerais de fer en Mauritanie, on en a vu des événements récents. Et on est en train de piller tout le tiers-monde de ses grandes richesses minérales. Alors quand ce tiers-monde aura les capitaux nécessaires pour édifier ses usines avec ses propres ressources, des usines qui lui appartiendront, eh bien il n'aura plus rien. Les poches de phosphate qui existent au Sénégal et au Togo sont exportées vers l'Europe quand les sols du Togo et du Sénégal manquent tellement de phosphate, mais les paysans de ce pays n'ont pas les moyens d'acheter. Alors, Engels disait en 1862 que la classe ouvrière britannique profitait de l'impérialisme britannique. La classe ouvrière d'Europe occidentale, de France, profite du pillage du tiers-monde, et ceci, les partis de gauche refusent de le reconnaître et refusent d'en tirer les conséquences. Nous ne pourrons plus acheter, dans quelques années, les 115 millions de tonnes de pétrole que la France consomme. D'ailleurs, c'est une part excessive d'une denrée rare. Le pétrole va manquer à partir de 1985. À ce moment-là, au lieu de 12 dollars le baril qu'il est actuellement, il montera peut-être à 50 ou 60 dollars le baril. On n'aura pas les devises, on n'a déjà pas les devises nécessaires pour acheter les 115 millions de tonnes de pétrole, puisqu'on s'endette les deux dernières années lourdement pour les acheter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors il faut regarder en face et rechercher une autre civilisation.
Vous avez l'impression que le mouvement écologique qu'on a vu, par exemple, fleurir en France à l'occasion des élections municipales, se dresse à la fois autant, enfin presque autant, contre les structures de gauche établies que contre le capitalisme dit sauvage ?
Enfin, il faut d'abord reconnaître que chez les écologistes, il y a une gamme de gens venant d'horizons politiques différents et encore marqués par leur horizon politique précédent. Nous avons les anarchistes et nous avons les royalistes. Nous sommes peut-être le seul parti, le seul mouvement, pardon, nous ne sommes pas un parti, à avoir ainsi des origines aussi diverses. Alors, les attitudes politiques sont diverses. Le mouvement alsacien a une tendance apolitique plus marquée que certains mouvements de la banlieue parisienne qui, par exemple, fréquentent couramment le Parti Socialiste Unifié, le PSU, et sont donc des socialistes de gauche comme origine et sont encore marqués par cette chose. Personnellement, j'estime qu'il faut allier l'écologie et le socialisme parce que l'austérité qui nous est imposée de par les ressources rares de la planète doit d'abord être imposée aux riches. Et ce sont eux, les privilégiés, qui gaspillent d'une façon effroyable les ressources rares de la planète. Alors si on établit un régime de rationnement par l'argent sans changer la répartition actuelle des revenus, pour les plus pauvres, cela risque d'être, pour les plus démunis, cela risque d'être difficilement tolérable, et les riches continueront leurs privilèges. J'ai parlé de l'essence du super à 5 francs le litre dans ma campagne présidentielle de 1974. On a ri. On est en bonne marche pour arriver à des chiffres qui certainement dépasseront. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une autre répartition. Nous avons en France 47% des revenus qui vont aux 20% les plus riches et 4% des revenus seulement qui vont aux 20% les plus pauvres. Nous sommes un des champions de l'inégalité des revenus. Donc la lutte pour l'austérité passe d'abord par l'austérité des riches.
Mais ce qui veut dire, à la base, que vous reprochez à la gauche française, par exemple, d'avoir, comme la droite, une politique de productivisme dans un cadre...
Une politique de productivisme, une politique de croissance, une politique d'augmentation massive de toutes les productions, alors qu'il nous faut envisager une réduction de nos consommations d'énergie, d'abord de pétrole. Nous refusons le nucléaire, donc nous recherchons à établir une civilisation à plus basse consommation d'énergie. Nous voulons développer d'autres formes d'énergie, comme l'énergie solaire. Cela prendra du temps. Dans l'intervalle, il nous faut bloquer. La croissance zéro, non pas de l'économie, mais la croissance zéro de l'énergie et la croissance zéro de la population.
Et ça veut dire, René Dumont, qu'on revienne en arrière sur un certain nombre de points, alors ?
Eh bien, ça veut dire qu'on renonce à gaspiller un certain nombre de choses. Par exemple, le gaspillage le plus effroyable, c'est d'abord le gaspillage de fuel pour le chauffage des appartements. Cela veut dire qu'on ne construise plus de ces tours qui consomment autant d'énergie en été pour la climatisation qu'en hiver pour le chauffage. Ces tours de verre, la construction devrait être interdite. Ensuite, que toutes les maisons nouvelles soit isolé, double fenêtre partout, de façon à ce qu'on puisse résoudre le problème du chauffage. D'abord qu'on chauffe moins, mais ensuite qu'on perde moins de chaleur par les parois des maisons, par les fenêtres, par les portes. Ensuite, le second gaspillage, c'est l'automobile.
Ah, alors là, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Les transports collectifs, bien évident, les transports collectifs partout.
Et qu'est-ce que vous allez faire avec tous les ouvriers qui sont dans l'automobile, vous direz, M. Segui ?
Eh bien, ils feront d'abord des fenêtres, des doubles fenêtres, et ils feront des appareils captant l'énergie solaire, et ensuite, ils travailleront moins. Et ils feront des organismes de transport, des instruments de transport collectifs. Il faudrait qu'il n'y ait plus... tout à l'heure, j'ai traversé la rue du Rhône-Lag, deux rangs d'automobiles en stationnement à droite et à gauche, une automobile qui décharge un déménagement, elle bloque toute la rue parce qu'elle n'a pas la place pour se garer à droite ou à gauche. Enfin, le stationnement dans les rues des grandes villes devrait être absolument interdit. Et un certain nombre de rues autorisées seulement au transport collectif. Ainsi, les autobus passeraient plus vite que les voitures particulières, ils seraient plus nombreux, ils seraient... disponible à chaque instant, et on n'aurait pas besoin de la voiture particulière dans ces conditions.
Ce qui veut dire d'une certaine manière que vous prenez presque autant une réorganisation de notre façon de vivre plutôt que le partage du gâteau comme semblerait que les partis les plus en place...
Non, tout à l'heure j'ai tout de même parlé de réduire l'inégalité des revenus. Donc...
Mais est-ce que c'est ça l'essentiel aujourd'hui pour une écologie socialiste ? Est-ce que c'est le gâteau à redistribuer d'une autre façon ou est-ce que c'est une organisation du travail à redéfinir ?
C'est une organisation du travail à redéfinir, mais nous produirons quand même des ressources et la répartition de ces ressources serait établie suivant une inégalité moindre. Non pas l'égalité parfaite, c'est impossible, c'est inaccessible, mais tout de même une réduction des inégalités. Mais d'abord, réduction des inégalités à l'échelle internationale. C'est ça le point sur lequel j'insiste beaucoup. L'arrêt du pillage du tiers-monde, la répartition des ressources rares de la planète en tenant compte des besoins de chacun. Actuellement, les États-Unis, avec moins de 6% de la population, consomment plus du tiers de l'énergie. Enfin, Carter l'a dit, qu'il y avait un gaspillage effroyable d'énergie. Mais quand il propose des mesures timides pour augmenter le prix du carburant, le Congrès ne suit pas. Alors les paroles ne sont pas suivies par les actes qui s'imposeraient cependant.
Mais lorsque vous dites arrêtons le productivisme, venons-en à une nouvelle organisation du travail, il faut abandonner ces thèmes de la croissance échevelée, 45-73 par exemple, c'était les thèmes qu'on trouvait dans le premier rapport du Club de Rome. Alors qu'est-ce qui est fondamentalement différent dans votre analyse de l'analyse de celle du Club de Rome ?
Mais premièrement, je pose le problème sur le plan politique, que le Club de Rome se disait apolitique. Pour moi, il exige la réalisation de ce programme dès une prise de pouvoir par des gens qui acceptent ces conceptions. Donc, il exige que nous intervenions sur le terrain politique. Intervenir non pas seulement par l'action du mouvement écologique, mais intervenir par l'action sur l'ensemble des partis politiques qui, enfin, nous respectent. Depuis qu'on a eu 10% des voix en moyenne à Paris, nous sommes considérés comme des gens respectables. Avant, nous étions considérés comme d'aimables plaisantins qui avaient des vues un peu particulières sur l'avenir de la planète, qui disaient des menaces, mais enfin, on ne nous prenait pas au sérieux. Maintenant, comme nous sommes pris au sérieux par une partie importante de l'électorat, nous sommes pris au sérieux par l'ensemble des partis politiques.
Alors, à partir du moment où vous êtes pris au sérieux, les problèmes commencent, j'allais dire. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de récupération de l'écologie par une sorte de mouvement technocratique de droite
oui,
ou de gauche?
Oui, enfin, les différents partis politiques se colorent en vert. Nous les appelons les verdâtres, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils proclament leur souci des problèmes écologiques. Mais la différence, le clivage est facile à trouver. Nous sommes contre l'énergie nucléaire. Et aucun parti politique ne nous suit dans cette opposition au nucléaire. C'est-à-dire pourquoi, s'il y a des élections législatives et si nous avons des candidats, il n'y aura pas de démission pour des candidats partisans du nucléaire. Et cela va empêcher certaines orientations. Certains voudraient se désister.
Mais apparemment, tout le monde est pour le nucléaire, non? On attend la prise de position du PS, mais tous les autres...
Tout le monde, sauf nous, enfin même le PS...
Tous les établis.
Une partie importante du PS avec Charles Hernu sont pour l'énergie nucléaire. Charles Hernu nous a traités de réactionnaires. Alors, ce refus du nucléaire, attention, tous les écologistes ne se rendent pas compte des conséquences de leur refus du nucléaire. Ils vont se battre à Malville le 30 juillet, c'est très bien. Mais il faut qu'ils orientent leur vie autrement. Et il ne faut pas seulement changer les structures de société, pas seulement changer le type de civilisation, il faut que chacun de nous change son mode de vie. Il faut que chacun de nous, chaque fois qu'il le peut, prenne le train, le métro, l'autobus, au lieu de prendre sa voiture.
Un peu plus d'être et moins d'avoir.
Un peu plus d'être et moins d'avoir, des relations conviviales et non pas l'accumulation de richesses égoïstes pour chacun de nous, le repli sur la petite famille qui cherche à avoir toujours un peu plus.
Et tout ça dans une optique quand même un petit peu libertaire, non?
Oui, c'est-à-dire que nous désirons que chacun de nous participe aux décisions, dans la mesure du possible, aux décisions qui l'intéressent. Participation non pas au bénéfice de l'entreprise, comme on l'a dit, mais participation à la gestion des entreprises, participation à la gestion du quartier, du village, participation aux décisions concernant l'école ou le dispensaire ou l'hôpital, participation à l'ensemble des décisions, de façon à ce que chacun soit responsable. Quand en réunion publique, on me demande, mais enfin, votre mouvement n'a pas une prise de position sur tous les points, bon, on n'a pas encore arrêté. Nous ne sommes pas Moïse descendu du Sinaï avec les tables de la loi écologique sous le bras, qui allons ordonner, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous disons, les menaces sont graves, il faut les étudier, voilà ce que nous proposons comme première série de mesures. Pour les autres séries de mesures, pour le détail, pour l'application, voyez-vous, il est facile de tracer une société de demain utopique. J'ai tracé dans l'Utopie ou la mort, qui est paru en 1973. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus me chercher pour me présenter au présidentiel. Ceci était relativement facile. Je prends les écologistes anglais, américains, j'étudie les mesures. Il faut économiser l'énergie, donc taxer l'énergie. Économiser les métaux, donc taxer les métaux. Recycler les métaux, faire comme à La Rochelle, etc. Bon, mais ceci est facile, c'est beaucoup plus difficile, et le schéma des mesures de transition vers une société de socialisme écologique. Alors là, nous proposons quelques premières mesures. C'était plus facile dans le cadre municipal que dans le cadre de la législative, où il faudra prendre parti sur les grandes décisions nationales. Mais nous proposons d'abord de consulter l'ensemble de la population. Bon, nous ne pouvons pas admettre qu'un petit groupe, nous, comme petit groupe, prenons des décisions intéressant l'ensemble de la population sans l'avoir consulté.
De ce côté-là, vous êtes assez proche de Michel Jobert, non?
Dans une certaine mesure. Michel Jobert m'avait invité à assister à son assemblée générale. Je n'avais pas eu le temps d'y aller à ce moment-là. Mais enfin, dans une certaine mesure, oui, cette consultation constante de la population est une idée force qui nous paraît extrêmement importante.
Mais est-ce qu'une politique d'écologie socialiste va, j'allais dire, spontanément dans le sens d'une plus grande égalité? Et qu'il n'y a pas de ce côté-là quelques petits problèmes?
Elle ne va pas spontanément dans le sens d'une plus grande égalité. C'est pourquoi j'ai écrit « Seule une écologie socialiste », non pas « Seule une écologie tout court ». Un mouvement écologique qui pourrait coïncider avec le capitalisme, on pourrait avoir une société capitaliste qui lutte contre la pollution, qui taxe l'énergie et en réduise le gaspillage, mais où les répartitions seraient encore extrêmement inégales et où les inégalités pourraient même croître à mesure que les restrictions seraient opposées. Seuls les riches, qui auraient un gros pouvoir d'achat, pourraient continuer une vie de gaspillage et que les pauvres seraient contraints à ne plus dépenser, même ceux qui dépensent actuellement, à ne plus disposer du minimum indispensable. Alors, ceci serait extrêmement grave.
Mais comment concilier cet aspect libertaire dont nous parlions il y a un instant et cette nécessité, vous le disiez tout à l'heure, de réduire, et dans votre livre vous parlez de 20%, de réduire de 20% les revenus, disons, des plus nantis, entre guillemets.
Oui.
C'est possible de concilier les deux?
Eh bien, il faut étudier le type de société. Nous nous proposons comme première mesure des taxations, impôts sur le capital, augmentation de l'impôt sur le revenu. Il y a peut-être des limites quand même dans cette idée-là. C'est l'Angleterre, par exemple, où les talents ne sont plus rémunérés parce que l'impôt est trop élevé. Alors, il y a un exode des cerveaux qui touche la Grande-Bretagne. Alors, dans le contexte mondial, une telle mesure appliquée seule en France, alors peut-on faire le socialisme écologique dans un seul pays, comme l'Union soviétique a fait le socialisme dans un seul pays.
Débat, ça.
C'est le grand problème. C'est le problème numéro un, et c'est pourquoi il est important que le mouvement écologique se développe à l'échelle internationale.
Oui, on en revient encore au problème des dialogues nord-sud, tiers-monde.
Et même des dialogues entre les pays développés, puisque les mouvements écologiques ne se développent guère actuellement que dans les pays développés. Alors il est important que les Amis de la Terre, à laquelle j'appartiens, soient nés aux États-Unis, se développent en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, que le mouvement antinucléaire se développe en Allemagne, où il a pris une violence même supérieure à celle que nous observons chez nous, n'est-ce pas ? Donc, nous ne sommes plus seuls.
Mais en ce qui concerne les pays du tiers-monde, la prise de conscience écologique chez eux, c'est quelque chose qu'il faut situer sur un plan très précis, non ?
Et oui, c'est les menaces écologiques qui sont redoutables. Les deux grandes menaces que je vois actuellement, c'est le Sahel au sud du Sahara, où on a multiplié les cultures de céréales parce que la population a augmenté, et de cultures d'exportation, l'arachide, parce que l'exportation a augmenté. Les minorités privilégiées au pouvoir veulent se procurer des ressources par la taxation des cultures d'exportation et les développent. Et alors, faute de jachère qui reconstituait l'humus des sols, on a actuellement des sols qui, sans humus, sont soumis à l'érosion par le vent. Le vent d'Harmattan en février, soufflant du Sahara, arrache tous les éléments fins du sol et dégrade. Et c'est pourquoi la sécheresse de 72 a été si redoutable au Sahel. Autre dégât écologique redoutable, sur les pentes de l'Himalaya, les forêts sont déboisées par des paysans qui, chaque jour plus nombreux, déboisent pour produire de quoi se nourrir. Alors, en déboisant, sur des pentes importantes, ils provoquent d'abord l'érosion, la terre s'en va, et puis il n'y a plus l'humus forestier qui retenait comme une éponge importante une partie des pluies de la mousson. Donc les inondations sont beaucoup plus graves au Pakistan et au Bangladesh, celle de novembre 70 au Bangladesh par exemple. Et les sécheresses sont plus redoutables parce que les sources ne sont plus alimentées, l'éponge que constituait l'humus forestier alimentait ensuite les sources.
Oui, mais comment expliquer, René Dumont, à des gens qui, pour certains, risquent de crever de faim, qu'il faut ménager une nature au profit des générations qui les succéderont ?
Et naturellement, c'est très difficile de leur expliquer, il faut leur proposer une alternative. Alors, moi, je propose une alternative au Sahel, une culture de fourrage associée à l'agriculture et à l'élevage, etc. Mais pour que cette alternative soit réalisable, il faut que l'agriculteur dispose d'un minimum de ressources. Or, actuellement, l'agriculteur tropical est soumis à une dîme effroyable de la part de ses dirigeants, de ses minorités privilégiées au pouvoir, et de la part de nous, qui lui sous-payons les denrées alimentaires. Il n'y a que 18 mois, depuis 18 mois, qu'on paye le café et le cacao à un prix normal. Alors, les gens trouvent que ce sont des prix scandaleux, naturellement, puisque ce sont des prix qui rémunèrent normalement les producteurs. Les consommateurs les plus riches du monde à New York font la grève du café. C'est même un scandale qu'une telle attitude, n'est-ce pas ? Alors, ces paysans ne disposent pas des ressources nécessaires pour augmenter leur production en respectant la nature, parce qu'il faut un changement de système de culture. Il faut acheter des animaux, avoir des charrettes, du fumier, le mettre dans les champs.
Et tout cela, René Dumont, ça suppose quand même un pouvoir régulateur mondial, j'allais dire mondialiste.
Un pouvoir régulateur mondial, évidemment, et le drame, c'est que le pouvoir appartient à ceux qui ont les armées. Actuellement, il y a deux grandes puissances, deux superpuissances, comme disent mes amis chinois. Et abdiquer...
Autant de puissances, ils en font une aussi, non ?
Oui, enfin, une troisième puissance qui naît. Abdiquer de la part de ces superpuissances, leur demander d'abdiquer leur pouvoir au sein d'une communauté mondiale est évidemment un problème difficile, mais cela va devenir une question de survie. Alors peut-être on y arrivera, étape par étape. Il faut chercher à grignoter les pouvoirs, un par un. Il faut tout de même une répartition des ressources rares de la planète. Il faut tout de même une organisation qui ménage ces ressources rares, qui n'altère plus les climats. Enfin, si on a une accumulation de gaz carbonique parce qu'on brûle trop de pétrole et de charbon, on risque de faire fondre les glaces du pôle et de faire remonter le niveau des mers entre 40 et 80 mètres, suivant les estimations. La Seine, sous les ponts de la Seine, l'altitude est de 26 mètres. Alors évidemment, nous sommes en train de jouer avec la planète, de jouer avec le feu, nous sommes en train d'aller à la mort si nous ne comprenons pas le drame écologique et qu'il faut une humanité capable de répartir ses ressources rares entre tous pour que les plus démunis ne souffrent pas trop.
Il est possible de faire prendre conscience aux gens de leur responsabilité à l'égard des descendants ?
Eh bien, les non-nés, c'est la menace qui pèse sur les générations futures. Nous sommes, nous disons, les représentants de ces générations futures.
Parti pris, René Dumont, quelles que soient vos options politiques, je vous conseille ce livre qui est très tonique, « Seule une écologie socialiste » publié chez Robert Laffont. Demain, notre invité sera Jean Daniel, le thème « Les racines d'un engagement ». René Dumont, une question pour Jean Daniel ?
Volontiers. Pourquoi le Nouvel Observateur n'attache-t-il pas plus d'importance, ne parle-t-il pas plus souvent des problèmes de la faim dans le tiers-monde ?
Notre adresse, parti pris, pièce 47-18A, d'ailleurs ce sera la dernière semaine, oui, si vous écrivez la semaine prochaine, il y aura une nouvelle adresse, nous allons changer de poste, nous allons changer également de pièce. Donc, maison de Radio France, 75 786, Paris, Selex 16. Merci d'être avec nous et bonne journée.
I'll show you, young man, with so many reasons why there but for fortune go you or I. Show me the country where the bombs had to fall. Show me the ruins of the buildings once so tall.
C'était Parti pris. René Dumont était l'invité de Jacques Pogam dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er juin 1977. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.